Voilà, la semaine dernière, on a commencé à aborder l'étude de la dernière prière de Jésus. On reste dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Alors cette prière, si vous avez une Bible avec des titres, elle porte sûrement un titre. C'est un titre qui est souvent donné à cette prière dans beaucoup de Bibles. Pas si vous le connaissez, c'est la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est la prière du prêtre qu'est Jésus pour nous. Et je trouve intéressant de voir que à la fin de son parcours, Jésus a eu plusieurs moments de prière. Il a eu un moment de prière particulièrement fort, intense, dans le jardin de Gethsémané, vous vous rappelez, peu avant sa mort. Jésus a été avec ses disciples qui n'ont pas pu veiller avec lui et il y avait vraiment ce combat parce que la croix se profilait devant lui. Et dans cette prière, Jésus a dit à son Père, « Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. » Il est intéressant qu'à partir du moment où Jésus a accepté la volonté de son Père pour lui, Jésus ne reviendra plus là-dessus. Et la prière de Jean 17, c'est déjà une prière de Jésus après la croix, on pourrait presque dire. C'est une prière qui nous parle du ministère de Jésus aujourd'hui pour nous. Jésus prie pour ses disciples. Il ne fait plus mention de la croix. Il a accepté la volonté du Père et il est déjà en quelque sorte entré dans le nouveau ministère qui va être le sien et qui est le sien aujourd'hui encore pour nous. Avant que Jésus ne parte de ce monde, dans sa vie humaine terrestre, il a eu beaucoup de titres. Il était le Sauveur, le Rédempteur, Dieu, l'image de Dieu, Dieu fait homme. Et à partir du moment où Jésus va quitter ce monde, l'office principal qu'il va occuper, c'est celui de grand prêtre. Il prie pour nous. Encore aujourd'hui, ce matin, Jésus prie pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est sa fonction principale. Et il est intéressant de lire dans Jean 17, verset 9, pour qui Jésus prie. Il dit, c'est pour eux que je prie. Il parle ici des disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vais le répéter. La prière de Jésus se concentre vraiment sur les disciples, parce que les disciples sont les personnes les plus précieuses pour Jésus ici-bas. Vous pouvez regarder le monde, les étoiles, le cosmos. Tout ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et c'est sans doute merveilleux aussi pour Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui compte par-dessus tout pour Dieu, c'est les frères de Jésus, ses disciples, nous. Jésus est mort pour nous. Il ne l'a pas fait pour les animaux, pour la création. Il est mort pour nous. Et comme il le dit dans sa prière, et comme je l'ai dit la dernière fois, ses disciples, ce n'est pas simplement ses disciples, ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est le cadeau du Père pour lui. Ceux qui formeront ce qu'il appelle son épouse dans le ciel. Et il y a beaucoup de versets qui nous disent et qui nous montrent que, au fond, tout le projet de Dieu dans la création, c'était de constituer une famille et de donner à Jésus le Fils unique des frères, de nombreux frères. Romains 8, 29, il est dit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà quelques résumer de façon assez succincte le projet de Dieu de toute éternité. Dans son cœur, le Père voulait constituer une famille de fils semblables au premier-né. Dans Hébreux 2, versets 11 et 12, il est dit « Celui qui sanctifie, c'est-à-dire Dieu, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints, sont tous issus d'un seul, le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Nous avons la nature de Jésus. Nous sommes devenus fils comme lui. Nous sommes tous issus du même, nous sommes nés du Père par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus nous reconnaît comme ses frères. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Je suis son frère, tu es son frère, sa sœur, parce que tu es né du même Père. On comprend dès lors que dans sa dernière prière avant de quitter ses disciples, Jésus se concentre sur eux. Il prie pour eux. Parce qu'il va partir, et eux seront encore là, pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, on ne va pas passer son temps sur les Hébreux, mais j'ai remarqué qu'il y a trois verbes qui apparaissent dans un passage, dans Hébreux 9, qui décrivent les trois aspects de l'œuvre de Jésus pour nous. Et c'est des verbes faciles à retenir. Le premier verbe, dans Hébreux 9, 26, « Christ a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. » Le premier aspect de l'œuvre de Jésus pour nous, c'est qu'il est apparu, le verbe « paraître ». Il est venu dans ce monde pour effacer le péché par son sacrifice. C'est la première étape. De l'œuvre de Jésus pour ses frères, pour nous. Dans Hébreux 9, 24, un peu avant, il est dit « Christ comparaît maintenant pour nous devant Dieu. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a effacé notre péché, et maintenant il comparaît pour nous devant Dieu. Il est notre médiateur, notre avocat, le prêtre qui prie pour nous. » Et le troisième verbe, c'est dans Hébreux 9, 28, « Christ apparaîtra pour sauver ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors, ces trois verbes que vous pouvez retenir facilement, il est d'abord paru pour nous, il comparaît aujourd'hui et il apparaîtra, il reviendra pour sauver ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi Jésus peut prier pour nous ? Ben, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le grand prêtre qualifié pour cela. Un ange ne peut pas prier pour moi ni pour toi. Parce qu'un ange n'est pas devenu homme. Il ne peut pas te représenter devant Dieu. Il peut servir Dieu pour ton bien, c'est ce que dit la Bible. Le ministère des anges, c'est d'assister, en tout cas d'être auprès des élus pour les secourir. Dieu peut utiliser un ange pour nous délivrer, mais il ne peut pas prier pour moi. Seul Jésus peut le faire, parce qu'il est comme moi. Il a connu les souffrances, les épreuves, les tentations que nous pouvons connaître. Tu as parlé tout à l'heure d'être accablé. Jésus a connu l'accablement, l'angoisse, la solitude, le combat. Il les a vécus avant nous. C'est pourquoi il peut nous représenter devant Dieu. Il est le grand prêtre parfait. Les prêtres de l'Ancien Testament devaient toujours renouveler les sacrifices et apporter des sacrifices pour leurs propres péchés. Mais Jésus n'a pas eu besoin, n'a pas besoin de renouveler son sacrifice. Il est mort une fois pour toutes. Et à cause de sa valeur, de la valeur de la personne qu'il était, son sacrifice a une portée, une efficacité éternelle. Quelle grâce de savoir que ce que Jésus a fait pour moi m'assure l'entrée dans le royaume de Dieu pour l'éternité, à cause de la valeur éternelle du Fils de Dieu qui est devenu homme. Et puis, le grand prêtre qui est Jésus est irremplaçable. Jésus, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il occupe une position de laquelle il ne peut pas être renversé, qui est établie pour toujours. Il est maintenant à la droite de Dieu, son Père, pour toujours. Et sa mission, c'est d'intercéder pour vous, pour moi. Jésus prie pour nous. Et j'aimerais que tu puisses vraiment garder cette parole dans ton cœur, peut-être cette semaine, te rappeler. Jésus prie pour moi. Je n'ai pas besoin de craindre que ma situation, mon salut, ma personne soient livrées aux forces des ténèbres sans secours. Jésus est là. Il prie pour moi. Il prie quand je suis dans la culpabilité, que je n'ai que mon péché à apporter. Il prie quand j'ai besoin de lui, dans les soucis, les fardeaux, les tentations. Il prie pour moi. Je voudrais aussi juste venir sur une petite vérité qui est importante. Parfois, dans les prières des chrétiens, on entend « Jésus, ton sang coule encore pour moi aujourd'hui ». C'est faux. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Et c'est en vertu de ce sacrifice qui est total, qui est accepté par Dieu une fois pour toutes, que nous sommes reçus. Ce n'est pas que Jésus doit de nouveau mourir ou souffrir pour nous. Dans le ciel, il ne souffre plus pour nous. Mais ce qu'il a fait était tellement important, profond, que ça satisfait la justice de Dieu pour toujours. Et je peux m'appuyer là-dessus. La résurrection est la preuve que le sang de Jésus suffit pour moi et pour mes péchés. Un autre point important, de détail peut-être, mais peut-être vous vous rappelez, vous avez lu cela, que dans l'Ancien Testament, quand les grands prêtres venaient dans le lieu très saint, ils avaient un habit spécial qu'on appelait le pectoral. Et sur ce pectoral, il y avait des épaulettes et il y avait une sorte de carré ici avec 12 pierres précieuses. Sur les épaulettes étaient écrits les noms des tribus d'Israël. Et les pierres précieuses représentaient chacune des tribus aussi. Je crois que c'est une belle image de Jésus. Jésus porte sur ses épaules son peuple. Chacun de nous est inscrit. Il y avait les tribus, bien sûr, qui représentaient tout le peuple. Et Jésus porte son peuple, il porte les fardeaux de son peuple devant Dieu. Et les pierres précieuses qui étaient sur le cœur du grand prêtre nous parlent aussi, bien sûr, de la valeur précieuse que nous avons à ses yeux. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, du Père et de Jésus le Fils. Et c'est parce que nous sommes précieux à ses yeux qu'il nous estime à un point infini. Non pas parce que nous sommes des gens exceptionnels, mais parce que nous sommes les dons du Père pour lui. C'est à cause de cela qu'il prie pour nous. Jésus prie pour ses disciples. Et on voit que l'apôtre Paul aussi a pris l'habitude de prier aussi beaucoup pour les chrétiens. Et je crois que, bien sûr, nous pouvons prier pour le monde. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prier pour le monde. D'ailleurs, Jésus priera plus tard pour ceux qui n'ont pas encore cru et qui croiront. Mais il y a un fardeau particulier de Dieu pour l'Église. Parce que, on va le voir, l'Église a une mission particulière dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que Jésus prie pour nous? J'ai dit, il y a 7 sujets. Ce matin, on va surtout réfléchir au premier sujet. Verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Pourquoi est-ce que les disciples sont si importants dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'ils sont si précieux? Parce que c'est la gloire de Dieu qui va être manifestée maintenant à travers eux. Au début, Jésus a dit dans le verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. » Quand il était sur terre, il a montré qui était Dieu. Le visage de Dieu, ses traits de caractère, sa personne. Maintenant, cette mission qui était la sienne, elle devient la mission des disciples. Nous sommes appelés à être les reflets de la gloire de Dieu, ensemble. On va le voir encore, c'est pas un individu seul qui peut représenter la gloire de Dieu, mais en eux, ensemble. On peut se poser la question, et c'est un peu ce à quoi on va réfléchir ce matin, quels sont les moyens, quels sont de quelle manière est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, Église, disciples de Jésus, nous pouvons manifester la gloire de Dieu? C'est un peu ce qu'on va réfléchir ce matin. Alors, pour répondre à cette question, il faut ouvrir la Bible dans plusieurs passages. Et c'est certainement pas complet ce que je vais dire, mais j'ai été conduit à prendre trois aspects de nos vies qui sont les moyens par lesquels la gloire de Dieu peut être révélée. On va lire d'abord Matthieu 5, versets 13 à 16, où c'est Jésus lui-même qui nous dit quelque chose. C'est un passage du sermon sur la montagne. Et Jésus prend deux images pour illustrer notre rôle ici-bas. La première image touche à ce qui est perceptible par le goût, et la deuxième, perceptible par les yeux, la vue. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. On est bien dans le thème de Jean 17 ici. Première chose, donc, Jésus nous parle du sel. Et le sel, il a deux fonctions. Il relève les aliments, il donne du goût à ce qui n'en a pas, ou très peu. Et puis, il crée la soif aussi, le sel. Et je crois que Jésus dit, veut nous montrer ici que la première façon de manifester la gloire de Dieu pour nous, c'est de donner envie de connaître le Maître avec qui nous vivons. C'est ce qui émane de nos vies qui va donner ce sel. On doit quelque part répandre un goût qu'on ne trouve pas ailleurs. On met en valeur des choses que les gens savent bonnes, mais qu'ils ne goûtent pas. Et à travers les chrétiens, ils peuvent les goûter. Ils peuvent voir que c'est bon de vivre avec Dieu. Nous sommes chargés d'apporter dans le monde le bonheur et la joie que nous avons de connaître Jésus. C'est ça qui doit nous différencier. Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est Jésus qui vit en nous. Nous avons reçu la parole de Dieu. Et la Bible dit que heureux celui qui médite la parole de Dieu, qui la met en pratique. Et nous sommes heureux à cause de l'espérance qui nous habite. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, Paul qui est en prison ne cesse de dire « Réjouissez-vous à cause de Jésus, à cause de l'espérance qu'il vous a donnée. » La question se pose donc, est-ce que ceux qui me côtoient ont envie de connaître le secret qui est dans ma vie, ce qui est le cœur de ma vie, ce qui est la source de mon bonheur, de ma joie quotidienne. Il y a d'autres qualités, bien sûr, qui sont nécessaires pour être le sel. On va parler tout à l'heure d'une en particulier, mais bien sûr, les chrétiens doivent faire envie à cause de leur fiabilité par rapport à la vérité, leur honnêteté, leur envie de servir, le fait qu'ils ne sont pas rancuniers, mais qu'ils peuvent pardonner, le fait qu'on peut compter sur eux quand ils disent quelque chose, qu'ils sont prévenants, chaleureux, polis. Il y a beaucoup de qualités qu'on pourrait ajouter. En tout cas, Jésus souligne qu'on doit faire la différence, qu'il doit y avoir une différence entre la vie de quelqu'un qui est disciple avec quelqu'un qui ne le connaît pas. La deuxième image, la lumière, parle de ce qui est visible. Le sel, c'est plus ce qui est ressenti dans le contact avec le chrétien. Jésus parle de la lumière en relation avec les œuvres que nous faisons. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre personne et le bien que nous faisons sont les outils que Dieu utilise pour que sa gloire puisse être visible dans nos vies. Et je crois qu'on doit vraiment être attentif à cela. Jésus n'a pas dit qu'on a besoin de se forcer, il a dit « Vous êtes le sel, si vous vivez avec moi, vous êtes le sel et vous êtes la lumière. » Donc c'est notre proximité avec lui qui fait que des choses sortent ou émanent de nous. Le deuxième passage, il est dans Jean 13, et c'est Jésus lui-même qui dit que c'est la voie royale par laquelle les disciples seront reconnus. Vous connaissez aussi ce passage. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le résumé du témoignage que Jésus vient de donner à ses disciples, de son amour pour eux. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est intéressant de voir que la préparation de Jésus au moment où il veut laver les pieds de ses disciples. Jean 13, versets 4 à 5, « Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. » En fait, Jésus, il s'est déshabillé, il a ôté les vêtements qu'il portait et il a pris un autre vêtement, le vêtement du serviteur, pour laver les pieds des disciples. Et quelque part, Jésus nous dit que pour servir, on doit se dévêtir quelque part de ce qu'on est naturellement pour entrer dans un esprit de service. C'est ça l'amour. On doit mettre de côté l'habit sous lequel on est connu. Jésus a quitté son habit de maître et seigneur et il a mis un habit de serviteur. Pour aimer, je dois mettre de côté ma propre fierté, ma propre personne et me mettre dans la peau du serviteur. C'est ce que Jésus a dit et il a dit que c'est par ce service, cette façon d'être que les gens vont reconnaître que nous sommes disciples de Jésus. Alors dans Jean 13, 34-35, Jésus donne quelque chose d'intéressant. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Le commandement de l'amour que Jésus donne n'est pas le même que celui de l'Ancien Testament. Vous verrez qu'il y a quelque chose que Jésus ajoute. Il dit « Aimez-vous les uns les autres Ça, c'était le commandement du passé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jésus est allé plus loin que l'Ancien Testament. Il a aimé les autres plus que lui-même. Plus que lui-même. Il n'a pas considéré ses intérêts, sa vie comme étant important, mais il a tout sacrifié. Et quelque part, l'amour que Jésus nous appelle à vivre, c'est ce qu'on appelle un amour sacrificiel, c'est-à-dire qu'on se donne. Jésus est allé jusqu'au sacrifice pour nous. Et c'est vrai que quand on voit le vécu de la première Église, dans Actes 2, 44-45, par exemple, on voit qu'ils étaient prêts à se dépouiller de leurs biens. C'était plus à eux, c'était aux autres. Il y a eu cet amour sacrificiel dès le départ qui a fait la force de l'Église primitive. Et je pense que c'est toujours d'actualité. C'est ce que Dieu désire aussi que nous soyons pour être un témoignage à sa gloire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. En tout cas, elle est rapportée par plusieurs sources historiques. Plusieurs pères de l'Église qui ont vécu peu de temps après l'apôtre Jean. Lorsque l'apôtre Jean était très vieux, il ne pouvait plus faire de longs discours, mais il allait de lieu en lieu, d'église en église, pour dire « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. » C'était son message. Et les historiens disent, comme il répétait cela sans cesse, ceux qui l'écoutaient commençaient à se lasser. Imaginez, tous les dimanches, je vous dis ça. Et Jean répondait, donc il lui demandait, pourquoi répètes-tu toujours cela ? Jean répondait, parce que c'est le commandement du Seigneur, et si cela seul est accompli, ça suffit. Si vous retenez ça, vous le mettez en pratique, ça suffira. Je crois que Jean avait raison. Trop souvent, on est en dessous de l'amour. On se plaint, on est insatisfait les uns des autres, on se critique. On ne réalise pas à quel point le Seigneur nous a aimés. S'il y a quelqu'un qui aurait pu être critique envers nous, insatisfait, en colère, c'est lui. Et pourtant, il a mis tout ça de côté pour nous manifester son amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Le troisième point, non, il y en a quatre, hein, excusez-moi, j'ai dit trois, il y en aura quatre. Le troisième point que la Bible souligne pour nous dire comment nous pouvons ressembler à Jésus, c'est l'humilité. L'humilité. Dans Philippiens 2, versets 1 à 9, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à l'humilité. C'est traduit de différentes façons, au verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Dans d'autres passages, enfin d'autres traductions, c'est « Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. » Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. L'humilité de Jésus n'est pas visible de temps en temps. Elle était la pensée dominante qui l'habitait. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur terre, il n'y avait qu'une pensée qui dominait, c'était l'humilité. Il était prêt à perdre son égalité avec Dieu, sa gloire, pour revêtir la condition humaine. Et quand il était homme, il n'est pas paru sous les traits d'un roi, d'un prince. Si Jésus avait paru dans ce monde comme le plus grand des hommes, il aurait déjà été humble, parce qu'il était beaucoup plus que cela. Mais il est venu sous l'aspect du serviteur. Et quand il était serviteur, il est entré dans une obéissance, il s'est humilié, il a été prêt à être pris pour un coupable, un criminel, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il y aurait beaucoup à dire sur l'humilité, et c'est un sujet que je médite en ce moment, et peut-être, certainement, je vais travailler plusieurs messages sur ce sujet. Parce que c'est vraiment la pensée qui est en Jésus. La pensée qui est en Jésus. Tout cet abaissement que Jésus a accepté par amour pour nous, par obéissance à la volonté de son Père. Et Jésus nous montre aussi le chemin de la gloire par l'humilité. Après avoir vécu ce chemin d'humilité, Dieu l'a ressuscité et l'a mis au-dessus de toute chose, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. L'humilité, c'est le refus de chercher la gloire pour soi-même dans cette vie. C'est une première définition. C'est le refus de faire tourner les choses autour de soi. Jésus n'a pas fait tourner les choses autour de sa personne, sa gloire. Il a accepté de perdre tout, sa dignité, sa gloire, accepté les cracheurs au lieu d'être adoré, reconnu pour ce qu'il était. Il a été traité comme un hérétique, un sectaire, condamné par la justice humaine. Et l'humilité n'est pas le chemin que seul Jésus a pris, mais aussi tous ceux qui l'ont précédé. Jésus a dit aux pharisiens de son temps, « Vous honorez les prophètes, vous leur construisez des monuments aujourd'hui, mais vos pères les ont traités la plupart du temps, comme moins que rien. » C'est vos pères qui les ont tués. Aujourd'hui, bien sûr, vous reconnaissez la faute de vos pères, mais vous n'avez pas reconnu qui ils étaient vraiment. Philippiens 2, verset 4 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça veut dire simplement des personnes à servir au-dessus de vous-même. On a parlé donc du sel, de la lumière, de l'amour, de l'humilité. Et puis un dernier texte qu'on va lire, c'est 1 Corinthiens 10, 31. J'aime ce texte parce qu'il montre que manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas faire de grandes choses, c'est dans la vie de tous les jours. C'est plus dans notre façon d'être que dans ce que nous faisons. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une intention qui est derrière, une intention. Le sujet, le contexte parle de la liberté chrétienne. Il y avait dans l'église de Corinthe des chrétiens d'origine juive, d'origine païenne, et il y avait des frictions parfois, des tensions, parce que selon la culture de chacun, chacun s'autorisait des choses. Il y en a qui mangeaient peut-être du porc, d'autre part. Il y en a qui respectaient le sabbat, d'autre part. Et ça créait des tensions. Et l'apôtre Paul ne va pas donner un règlement, un carnet avec des lois, des interdits. Il va dire, ce que vous devez faire, c'est chercher la gloire de Dieu. Faites les choses pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas votre liberté qui est le principe supérieur qui doit vous guider. C'est le souci de la gloire de Dieu. Et si je t'invite, mon frère, et que tu as des scrupules pour quelque chose, alors, pour la gloire de Dieu, je vais renoncer à ma liberté pour ne pas te choquer, te gêner. Et donc, l'apôtre Paul nous montre que Eh bien, c'est dans les petites choses, dans la façon d'être les uns envers les autres, que aussi on manifeste ce qui est le plus important, c'est l'amour. Et d'ailleurs, après ce verset, l'apôtre Paul dit « Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant pour mon avantage, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Paul s'adaptait au milieu dans lequel il se trouvait. Il ne se comportait pas de la même manière avec des personnes d'origine juive et non-juive. Parce que son souci, c'était qu'il soit sauvé, qu'il soit édifié, encouragé, construit. Et il faisait ça pour la gloire de Dieu. Alors je veux simplement rappeler le premier sujet de prière que Jésus énonce pour les disciples, que je sois glorifié en eux. Jésus peut être glorifié si je vis par lui, que je deviens le sel de la terre, si je fais les œuvres bonnes auxquelles il m'appelle, la lumière du monde. Jésus est glorifié par l'amour dont je témoigne envers mes frères. Et combien nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour ça. Aimez-vous les uns les autres d'une manière sacrificielle comme je vous ai aimé. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus, l'humilité. L'important, ce n'est pas que je sois reconnu, qu'on reconnaisse ce que je suis. C'est que moi, je sois capable d'aller vers l'autre pour répondre à ses besoins. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, c'est ensemble qu'on vit ça. Le projet de Dieu passe par la communauté, pas par l'individu seul. Et c'est certainement plus difficile de vivre dans la communauté que de vivre seul, chrétien. Mais comment est-ce que la vie de Jésus peut être visible, perçue par les autres, si on n'apprend pas ensemble et si on ne grandit pas ensemble? Voilà, prions aussi pour que le Seigneur puisse être glorifié à travers nous.